si vous le voulez bien, et nous lisons ensemble. Je vais vous proposer trois textes introductifs à ce message. C'est dans l'Exode au chapitre 24 que nous ferons notre première lecture, le livre de l'Exode, chapitre 24, le verset 1. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Et puis un peu plus bas, au verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Et écoutez bien, ils virent le Dieu d'Israël. Ils l'ont vu. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » Au verset 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Au verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Au verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16, et vous verrez qu'il y a bien sûr un fil conducteur entre ces lectures. Actes 16, et nous lisons. Acte 16, et nous lisons à partir du verset 22, « La foule se souleva aussi contre eux, contre Paul et Silas, hein, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Et vous savez comment le geôlier, toute sa maison, s'est tournée vers le Seigneur. Et là aussi, il y a eu un service de baptême nocturne. Hein, ils ont pris le baptême, ils se sont donnés au Seigneur. Et puis, pour terminer, on va lire ensemble dans le Deutéronome, au chapitre 32, un texte absolument merveilleux. Deutéronome, chapitre 32. Et le verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël à manger les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Amen. Je voudrais, frères et sœurs, voir avec vous le besoin que Dieu a éprouvé de rappeler à son peuple. On a besoin que Dieu nous rappelle des choses. Pas vous ? Moi, plus je prends de l'âge et plus ma mémoire a besoin d'être rafraîchie. Hein ? Il m'arrive même de plus en plus de dire « rappelle-moi les choses hein ». Quand on me dit « vous vous souvenez ? Rappelle-moi, rappelle-moi ». Et on a besoin que Dieu nous rappelle. Ici, Dieu a rappelé à son peuple ce que je pourrais qualifier de son si grand salut. Il lui a rappelé de quelle manière absolument sublime il est intervenu pour le sauver et faire de lui, comme nous l'avons lu, sa part, sa portion, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Et nous faisons partie, nous, Église du Seigneur Jésus, de la portion de l'Éternel. Nous lui appartenons. Faites-moi un grand amen. Nous sommes à lui. Alléluia. Et pour que nous devenions sa portion, il a déployé en notre faveur son si grand salut. Et j'aimerais ce soir voir trois aspects du si grand salut de Dieu. Premièrement, le verset 10, il l'a trouvé. Est-ce que vous vous souvenez du jour et du contexte dans lequel Dieu a réussi enfin à vous trouver ? Moi, je m'en souviens. C'était au mois d'août 1971, à mon premier culte, à travers une mamie qui a apporté un don spirituel, une prophétie, Dieu m'a trouvé. Parce que chaque parole qu'elle prononçait était d'une telle précision et correspondait tellement à ma vie secrète d'adolescent perdu que je me suis mis à pleurer. Dieu était en train de me trouver. Il y a une première chose que je ne veux surtout pas oublier, c'est de quelle manière le Seigneur nous a trouvés. S'il nous a trouvés, ce n'est pas fortuitement, c'est parce qu'il nous cherchait. D'ailleurs, je pense que vous pourrez confirmer ce que je vais dire de mon expérience. Quand je l'ai trouvé, quand il m'a trouvé, j'ai eu les yeux éclairés et je me suis souvenu qu'il me cherchait déjà dans le passé. Certaines circonstances de mon passé me sont revenues en mémoire et c'est comme si Dieu me disait, tu vois là, ce soir-là, dans cette situation où tu étais exposé à un danger, j'étais là déjà. Et puis ici, j'étais là, je cherchais à te trouver. Et puis un jour, Dieu a réussi à nous trouver. Et ça, je crois que ça doit nous susciter un flot de reconnaissance et d'adoration, je dirais, inépuisable. Jusqu'au bout et jusqu'au dernier instant de ma vie sur terre, je le bénirai parce qu'il m'a trouvé. Il a été comme ce berger qui a laissé les 99 dans l'étable parce qu'il en manquait une seule. Il est sorti en pleine nuit. Il a cherché, il a appelé, il a écouté s'il y avait un écho, une réponse. Et il a fini par trouver. sa brebis perdue. Gloire à Dieu. Quel bonheur, hein, gloire à Dieu, quelle joie. La Bible nous parle de la joie du berger. Il prend sa brebis, pas forcément en très bon état, comme on va le voir tout à l'heure, mais il l'a trouvée. Il la rassure. Il la porte sur ses épaules. Il est heureux. Il ne sent même pas sa fatigue. Il est tard. Il a cherché, il a marché, mais il ne sent pas sa fatigue. Transcendé par la joie d'avoir trouvé sa brebis, il vient, il rassemble ses amis et ils se réjouissent. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé ma brebis. Gloire à Dieu. Quelle grâce immense, hein. Il l'a trouvée dans quel contexte ? Dans une contrée déserte. Dans une solitude aux effroyables hurlements. Je ne veux pas oublier dans quel état j'étais quand Jésus m'a trouvé. J'étais un ado au cœur vide. Je me raccrochais à des valeurs qui, les unes après les autres, me procuraient de la déception. J'avais des questions existentielles, mais je n'avais pas les réponses. Je n'avais plus le goût de vivre. Je rentrais du collège et je balançais mon cartable dans un coin de ma chambre. Je m'affalais sur mon lit. Je n'avais pas le courage de faire mes devoirs. J'étais un ado complètement détruit à l'intérieur de lui-même. C'est dans ce contexte qu'il m'a trouvé. Et mon histoire avec Christ a commencé comme ça, dans ce contexte-là. Et je ne veux pas l'oublier, parce que Israël l'a oublié. Mon peuple est devenu gras, replet, épais. Et il a oublié ça. C'est pourquoi Dieu le lui rappelle. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, n'oublie pas comment Dieu t'a trouvé. Et d'où le Seigneur t'a sorti. Dans quel état pitoyable dans lequel tu étais tombé à cause du péché, il t'a trouvé et sans te condamner, il t'a pris. Et première phase du si grand salut de Dieu, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ça, c'est la première phase du salut de Dieu. Il me trouve et je profite de ses soins. Parce qu'on a besoin de soins. Pas vous ? On a besoin de soins. Parce que on est marqué. On a des fractures intérieures, on a un vécu, une histoire, on a nos échecs, notre culpabilité, le sentiment d'avoir raté des coches. Il y a des besoins à l'intérieur. Quel est le psychologue qui va réussir à me soigner efficacement ? Il n'est pas d'ici-bas, c'est le Dieu d'en haut, le Dieu du ciel qui a le pouvoir de nous soigner. Je profite ici pour faire une parenthèse plus personnelle, m'adressant à toute personne parmi nous ce soir qui a besoin des soins du Seigneur. Le Seigneur qui t'a trouvé, c'est le Seigneur qui veut prodiguer ses soins. Et ils sont efficaces et ils sont appropriés. Alléluia ! Il veut te soigner. Il veut apaiser tes points douloureux. Il veut ressouder tes fractures. Il veut te libérer de l'intérieur, de l'ombre dominante que projettent sur ta vie tes échecs, tes déboires, tes traumatismes d'hier. Il veut te soigner. Moi, je prie pour que nous repartions après chaque réunion en meilleure santé. Oui ou non ? On ne repart pas ce soir avec tes fractures, avec tes souffrances cachées, parce que ton Dieu, c'est le Dieu qui veut te dispenser ses soins, le Dieu qui soigne, le Dieu qui entoure affectueusement, le Dieu qui garde, c'est la protection, et il garde son peuple et son enfant comme la prunelle de son œil. Il me semble qu'on est tous d'accord, c'est quand même l'endroit que l'on protège le plus. C'est pas vrai ? La prunelle, il suffit qu'il y ait une poussière, je sais pas, même une sorte de souffle d'air là qui vient, hop, on, on, On ferme les paupières, on protège certainement la prunelle de nos yeux avec une attention maximale. C'est comme ça que Dieu nous protège. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, rejette la crainte. Dis avec l'homme de la Bible, le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je crainte ? Amen. Pas besoin, moi, d'une relique superstitieuse. J'ai pas besoin de la patte du lapin ou du fer à cheval sur le pare-choc de ma voiture. Pas besoin de Saint-Christophe, moi, pour être protégé. J'ai pas, voyez. Non, parce que le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je crainte ? Que le Seigneur soit béni. Et dans cette société fortement angoissée et stressée, que la paix de Dieu soit ton partage. Ça fait partie du si grand salut de Dieu. Amen. Première phase. Deuxième phase du salut de Dieu. Alors, la deuxième phase nous est donnée à travers une image. L'aigle et les aiglons. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Une image pleine d'instructions. Il y a un moment, l'aigle vient et il éveille sa couvée, comme pour leur dire « Oh oh, le temps est venu de passer à autre chose. Jusqu'ici, vous êtes dans le nid douillet. » Vous avez faim, vous ouvrez le bec, vous criez famine, je viens, je vous sers une nourriture facile, c'est moi qui vais la chercher, je vous la décortique, je vous fournis et vous êtes là, c'est très bien pour le début. Mais il y a un moment, les aiglons, il y a un moment, il faut vous réveiller et il faut comprendre que le confort chaleureux dans lequel je vous ai placé, c'est provisoire. C'est provisoire. Il faut aller plus loin maintenant, parce que vous êtes destinés à voler. Les aiglons sont destinés à voler, mais ils ne savent pas le faire encore. Mais l'aigle va le leur apprendre. Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous parler de l'école de Dieu. Après avoir été sauvés dans notre désert au hurlement lugubre et effroyable, après avoir profité de ses soins, de sa guérison intérieure, Dieu veut nous faire aller plus loin. Il veut nous introduire à son école. Amen. C'est la rentrée, hein, on va à l'école. Il veut nous apprendre. Et l'aigle a une manière de procéder qui reflète celle de notre Dieu. Premièrement, il éveille la couvée. Ça va, vous voulez vous réveiller, vous voulez prendre conscience là qu'il y a des choses à côté desquelles il ne faut pas passer. Là, il faut prendre conscience, il éveille. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Il voltige. Donc, il montre l'exemple. Ouais. Regardez. Regardez ce à quoi vous êtes appelés. Et donc l'aigle voltige, il est suspendu dans l'air, et les aiglons, ils regardent, et qu'est-ce qui se passe ? Il est suspendu dans l'air. Ouais. Il montre l'exemple, et puis ensuite, il prend ses aiglons sur ses ailes, sur ses plumes, et il décolle du nid. Et les aiglons sont suspendus au-dessus du vide. C'est la première fois, ça doit faire drôle. Hein. Moi, je ne suis pas un aiglon, mais à l'école du Seigneur, lorsqu'on se sent suspendu au-dessus du vide, ça fait drôle. Moi, j'ai un gendre, il ne passe jamais par le pont de Millau, vous savez, ce joli pont de Millau, parce qu'il ne peut pas supporter le vide, là. C'est physique, quoi. Il ne peut pas. Donc, ils prennent des détours. Il ne peut pas, c'est comme ça. Et imaginez le stress des aiglons qui se cramponnent aux plumes de l'aigle. Mais imaginez pire que ça, lorsque l'aigle, d'un coup d'aile, les projette dans le vide. Oh là là. Les aiglons projetés dans le vide. Imaginez leur panique. Vous voyez ? Mais rassurez-vous, si eux sont paniqués, l'aigle contrôle tout. Il les laisse un petit peu paniquer, là. Ça, ils sont en train d'apprendre. Et il calcule, il connaît l'altitude et tout, et il sait à quel moment, parce que comme Dieu sait à quel moment, il doit déclencher son secours et son intervention, c'est Dieu qui juge, il ne se trompe jamais. Et quand l'aigle dit, bon, je pense que c'est bon, il pique et il récupère les aiglons sur ses grandes ailes. Et les petits sont rassurés, hein. Ils prennent le Kleenex, ils se sèchent la transpiration et ils ont eu chaud. Hein, ils ont eu... Mais c'est la première leçon, puis une deuxième et une troisième. Et autant que nécessaire, autant que nécessaire. Quelquefois, le Seigneur qui te porte va te projeter dans le vide. Et quelqu'un est en train de penser, s'il est venu de Nîmes pour nous dire ça... Je savais bien que ce soir, il ne fallait pas que je vienne à la réunion de prière. J'aurais dû rester chez moi. Et cependant, mes bien-aimés, c'est un enseignement tellement essentiel si nous voulons aller plus loin et devenir des chrétiens adultes, matures, responsables et construits. Nous devons admettre cette phase incontournable du salut de Dieu où le Seigneur nous projette dans le vide, où nous cherchons des appuis et nous n'en trouvons pas, où parfois nous prions et nous n'avons pas de réponse, on dirait que la prière elle est stoppée par le faux plafond, où quelquefois nous lisons la Bible, nous cherchons et les versets ne nous parlent pas, voyez, mais comprenons que ces séquences inconfortables font partie de la formation par laquelle il nous fait passer. Parce que voler au-dessus du vide, nous ne savons pas le faire. Et pourtant, nous sommes appelés à le faire. Marcher par la foi, nous ne savons pas le faire. Cependant, mon juste vivra par la foi. Et Dieu veut nous initier à marcher par la foi. Et cette initiation, eh bien, c'est une école, bon, je crois, qui va nécessiter toute notre vie. Pensez, vous êtes d'accord ? Il n'y a pas de formation accélérée dans ce domaine. Voilà, marcher par la foi en 10 jours. Non, ça n'existe pas, ça. Hein. Ne cherchez pas sur Internet des formations comme ça, ça n'existe pas. C'est toute ta vie avec Christ qui va être ton école d'apprentissage pour apprendre à marcher par la foi. Un aigle n'est pas destiné à finir dans un poulailler avec les poules. Il est destiné à voler à 1000, 2000, 3000, 4000 mètres d'altitude. C'est sa destinée. Et tu n'es pas destiné à évoluer lourdement dans un poulailler avec les poules et les... Non, tu es destiné à voler. À voler. Et ça, tu dois l'apprendre. Je dois l'apprendre. Et chaque fois qu'il y a une épreuve qui intervient sur ta route, ne vois pas une épreuve, mais vois un cours d'apprentissage. Seigneur, tu veux m'apprendre quelque chose. Tu veux m'apprendre à ne pas être déstabilisé lorsque je prie et que rien n'arrive. Je sais que tu es comme l'aigle qui me surveille, qui contrôle ma chute libre. Et tu as déjà fixé le moment de ton intervention. On doit apprendre ces choses, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Et ne rien laisser nous perturber et nous voler notre joie, notre paix, notre rayonnement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et donc, cet aigle qui éduque ses aiglons, au verset 13, c'est le but, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Amen. Le but de cet apprentissage, c'est de nous faire monter. Amen. Il y a des choses qui vont te tirer vers le bas, mais le Seigneur, ton divin formateur, va t'élever. Il va te faire monter. C'est pourquoi je vous ai lu le passage du livre de l'Exode au chapitre 24, parce que dans ce chapitre, à plusieurs reprises, il y a le verbe monter. Monte. Dieu dit à Moïse, monte vers moi. Et Moïse monta avec Aaron et avec Abihu et avec les anciens d'Israël. Monte, monte. Et Moïse monta sur la montagne et il vit le Seigneur. Et puis la nuée était là, Moïse monta et il entra dans la nuée. Monte et reste là. Ce sont des exhortations, des appels qui aujourd'hui encore sont d'une importance majeure pour chaque enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, monte. Amen. Monte. Et ne laisse à aucun facteur négatif te tirer vers le bas. Mais monte. Monte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul et Silas? Ils annoncent Jésus-Christ. Ça suscite une persécution. Et vous avez remarqué la violence de la description? Ils les saisissent. Ils arrachent leurs vêtements. Donc, voilà. Ils les chargent de coups. Ils les conduisent au geôlier en lui disant de les garder sûrement. Ils les jettent dans la prison intérieure avec des ceps aux pieds. Et voici Paul et Silas. Moi, il est possible que la moitié de leur persécution aurait suffi pour me précipiter vers le bas. Mais eux, non. La Bible nous dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, priaient. Et là, ils sont en train de monter, là. Ils montent. Vous voyez ? Parce que la prière, ça nous fait monter. Gloire à Dieu. D'ailleurs, il y a des prières. Dis, Seigneur, stoppe là cette prière parce qu'elle nous tire vers le bas. Il y a des prières qui vous tirent vers le bas. Alors, que dans notre église d'Aubagne, il n'y ait que des prières qui nous feront monter. Dites-moi un petit amen. Alléluia. Parce qu'il y a des prières, ça nous tire vers le bas, quoi. C'est des complaintes, rien ne va plus, c'est des épreuves, des douleurs. Seigneur, tu vois combien je suis pas bien, tatatata. C'est une énumération de trucs qui vont pas. Et on cherche, à un moment, on dit quand même, le frère, la sœur, à un moment donné, sa foi va s'exprimer. Ben non, on attend. Et non, c'est que des complaintes, ça vous tire vers le bas. Et en plus, quelquefois, c'est interminable. Alors, quand c'est pas positif et que c'est long, oula, Seigneur, il y a un homme de Dieu qui, un jour, a visité un croyant. Et il, après sa visite, il a dit, le premier quart d'heure, je disais amen. Le deuxième quart d'heure, je ne disais plus rien du tout. Le troisième quart d'heure, je disais, Seigneur, arrête-le. Oui, parce que la prière doit nous faire monter. Et Paul et Silas priaient, et ça leur a permis, en fait, ils n'étaient plus dans la prison. Ils y étaient, corporellement. Mais vous savez ce qui est écrit? Que il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, gloire à Dieu. Hein ? Alors, ils étaient physiquement dans la prison, mais ils étaient dans les lieux célestes surtout, en Jésus-Christ. C'est pourquoi, moi, je comprends qu'ils aient eu à cœur après de chanter. Ils ont monté, alors ils ont chanté, et ils n'ont pas chanté « Oh là là, que c'est dur !» Mais ils ont chanté les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu. Ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont fait un duo merveilleux. Le Saint-Esprit est descendu. Et vous connaissez la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, monte. Ce soir, c'est un message que j'aimerais déposer sur ton cœur. Monte. Et va à contre-courant de tous les facteurs qui voudraient t'enfoncer par la prière. Monte, monte, monte sur la montagne. Monte vers le Seigneur. Et comme Moïse a vu l'Éternel, et quelle description, sous ses pieds, c'était du saphir, comme le ciel s'est formé. Tu vas monter et tu vas expérimenter de belles choses dans la présence de Dieu. Et j'en arrive au troisième aspect du si grand salut de Dieu. Oui, parce qu'une fois qu'on est monté, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et, conjonction de coordination, et par voie de conséquence, et Israël a mangé les fruits des champs, il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin, j'ai envie de dire, et le peuple a profité des bienfaits incomparables du ciel. Mon frère, ma sœur, qu'à chaque réunion, tu puisses profiter au maximum. Amen. Que tu puisses sucer le miel qui sort du rocher. Le rocher, c'est Jésus. Amen. Que tu puisses t'imprégner de l'huile. L'huile de l'onction du Saint-Esprit. Profite des réunions. Oui ou non ? Je ne veux pas venir aux réunions avec un parapluie. Les autres sont bénis, mais moi je ne reçois rien parce que j'ai le parapluie de mes dispositions négatives, découragement, etc. Enlève le parapluie et laisse-toi imprégner par l'effusion merveilleuse des richesses célestes. Profite du miel. Vous en profitez ce soir ? Le miel, c'est la parole de Dieu. Profite, profite de l'huile. Et moi, je prie pour que dans... Tu as eu raison hier soir de poser la question, Erwan, sur notre ouverture, notre soif du Saint-Esprit. Profite de l'huile. Nous sommes l'église de la Pentecôte. Oh là là, ça vous enthousiasme, hein? Nous sommes l'église de la chambre haute. Quelle grâce! Dieu nous a révélé cette dimension de la vie du Saint-Esprit. Savez-vous que des mouvements évangéliques ne connaissent pas cette dimension? Quel privilège nous avons, frères et sœurs, d'avoir compris et accédé à cette dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Moi, quand je lis « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit », ouh là là, quand ils sortent de la chambre haute, c'est des soleils rayonnants. Ils sont prêts à affronter les défis les plus impressionnants. Eh bien, en 2024, pour l'Église d'aujourd'hui, il en est ainsi. Dieu veut nous faire monter afin que nous profitions du miel, de l'huile. Qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit parmi nous. Mais ce n'est pas possible, si, c'est possible. Vous croyez ? Dans les temps difficiles. Voilà. Mais bien sûr, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur deux ou trois. Combien ? Quatre ? Sur toute chair. Alléluia ! Les vieillards, les jeunes, les hommes, les serviteurs, les servantes, sans discrimination, ni d'âge, ni de sexe, ni de condition, mais sur toute chair, c'est la grande promesse du prophète Joël, l'effusion du Saint-Esprit. Mais mes amis, nos églises ne seraient pas ce qu'elles sont s'il n'y avait eu le glorieux ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, Dieu donne une clé, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et nous devons avoir et garder une soif du Saint-Esprit. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit ? Est-ce que tu pries pour cela ? Est-ce que tu le recherches ? Est-ce que tu viens au rocher pour t'imprégner de l'huile du Saint-Esprit ? C'est en tout cas un élément essentiel du si grand salut de Dieu. La crème des vaches et le lait des brebis, la graisse des agneaux, ceci nous parle de prospérité, de bonheur, de richesse spirituelle. Tu as bu le sang du raisin, permettez que je fasse ici un arrêt particulier. Le vin, c'est déjà quelque chose qui nous annonce la valeur qui doit rester essentiel pour nous, des emblèmes, le pain et le vin, que nous célébrons chaque dimanche, qu'en aucun cas la routine ne vienne estomper, effacer, affaiblir la valeur de ces emblèmes. Parce que ce pain et ce vin ou ce jus de raisin me rappellent un message. Jésus a vaincu. Jésus a tout accompli. Alléluia! Le prix est payé, le diable est vaincu, la maladie, la mort, les ténèbres sont vaincues. Chaque fois que nous sommes dans un moment de sainte scène, l'Esprit de Dieu veut nous raviver. Cette prise de conscience de la valeur des emblèmes que nous prenons ensemble, et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire assez fréquemment qu'au moment où nous prenons ces emblèmes, tout peut se passer. Un malade peut être guéri, quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, il peut se passer parce que je suis en train de prendre des emblèmes qui confesse et proclame la grande victoire de Jésus. Amen. Voilà quelques éléments du si grand salut dont nous sommes les bénéficiaires, que son nom soit béni. Et le reste de la lecture, moi je ne veux pas le vivre. Parce que le reste, ce n'est pas terrible. Israël a oublié ça. Il a trouvé normal. Il s'est habitué au salut. Il est devenu gras, replet, épais. Il s'est rempli de suffisance et il a perdu la conscience de l'immense grâce que Dieu a déployée en sa faveur. Et Dieu a cessé d'être indispensable puisque Israël s'est tourné vers des idoles. Ils se sont crus maîtres et gestionnaires de leur vie. Ils ont oublié le rocher de leur salut. Ils ont abandonné Dieu, leur Créateur. Que le Seigneur m'en garde et nous en garde. Parce que si ceci est consigné dans les Saintes Écritures, c'est dans le but de nous avertir et que nous ne tombions pas dans cette séduction, dans ce piège, mais que le Saint-Esprit ravive toujours en nous la louange, l'adoration, l'émerveillement devant ce mystère du si grand salut de Dieu. Amen.